Vidéoweb, comme son nom l'indique, c'est l'actualité vue de la toile. Autour de moi ce matin, Mélissa Bounois du site Slate.
Bonjour.
Et puis Thomas Hofnung du site The Conversation.
Bonjour.
Alors évidemment, comment faire autrement, j'allais dire, un retour ce matin avec vous sur l'attentat de Nice le 14 juillet au soir sur la promenade des Anglais. Alors Thomas Hofnung, vous avez choisi un article sur l'évolution des profils des terroristes, individus radicalisés, seuls devant leur écran, à domicile, isolés.
Oui.
Votre chercheur appelle ça la diaspora. Imaginez.
Notre chercheur, c'est Riva Castoriano de Sciences Po Paris. Là, dans le cas de Nice, Riva Castoriano a choisi de mettre l'accent sur ce qu'elle appelle donc la diaspora imaginée. C'est-à-dire, vous savez, l'État islamique, à la différence de Al-Qaïda, s'était forgé en disant on va s'ancrer territorialement parlant, on va refonder le califat. Et les djihadistes venus du monde entier, notamment d'Europe, mais aussi du Caucase, vont nous rallier. Et là, maintenant, il y a cette idée qu'il faut frapper les adversaires de l'État islamique partout où on le peut, et donc notamment en France, qui est un des adversaires principaux de l'État islamique. Et là, l'État islamique donc fait appel à des membres de ce qu'elle appelle la diaspora, parce que au-delà du califat, il y a aussi cette idée, ce concept de communauté, d'ouma en arabe, donc avec l'idée que tous ces partisans de l'État islamique font partie de cette communauté imaginée, et donc il y a à la fois le califat et la diaspora. Mais toujours est-il que maintenant on se retrouve face à des individus qui sont très durs à repérer et qui font preuve d'une imagination mortifère sans borne, puisque là, donc, on l'a vu avec l'utilisation de ce camion transformé en rouleau compresseur qui a tout ravagé sur son passage.
Mélissa Bounois, sur le site Slate, les heures qui ont suivi l'attentat de Nice ont fait sombrer la télé française. C'est ce que vous analysez?
Oui, c'est une journaliste de Slate, Titu Lecoq, qui était devant sa télé jeudi soir et qui donc a suivi vraiment heure par heure le traitement médiatique. Et donc au début, elle regarde les chaînes de télé en ayant un peu peur, parce qu'après les traitements médiatiques des différents attentats en France, il y a quand même eu beaucoup de ratés et d'erreurs. D'abord, il y a cette image frappante de feu d'artifice, parce que c'est le feu d'artifice à Paris, et BFM TV et Télé diffusaient ça en direct, et il y avait un bandeau qui indiquait que voilà, il y avait quelque chose qui se passait à Nice avec des morts. Puis ensuite, les chaînes ont mis assez longtemps à réagir, donc elle s'est dit « Ok, ils vont être sérieux, ils vont attendre d'avoir les infos ». En fait, iTélé commence à balancer des témoignages disant qu'ils n'ont aucune information, donc pas grand-chose. LCI prend l'antenne donc en direct, passe donc sur TF1 en direct, et pareil, relaie des témoignages sans avoir vraiment beaucoup d'infos, et relaie surtout une rumeur, qui était la rumeur d'une prise d'otage dans un autre hôtel, dans un hôtel à Nice. La pire chose qu'elle a constatée, c'était cette interview, voilà, sur France 2, d'un homme à côté de sa femme morte, du cadavre, sans que on sache vraiment si c'était sa femme. Au-delà de la pudeur dont la chaîne aurait pu faire preuve, elle a été aussi très choquée par le fait que ils n'avaient pas eu le temps de vérifier l'info, qu'ils ont diffusé ça en direct et que c'était quand même très questionnable.
France 2 s'est excusé d'ailleurs.
C'est ça, exactement. Ouais. S'est excusé le lendemain en disant voilà, c'est pas conforme à notre ligne éditoriale, on voulait pas absolument pas faire ça. Mais en fait, c'est les chaînes TF1 et France 2 qui ont fait voilà le pire traitement, et c'est ça qui l'a véritablement choqué.
Et cet article se conclut, hein, Mélissa, on attend avec impatience les avis du CSA.
Exactement.
On passe à présent à l'article qui a retenu l'attention des internautes sur vos sites. Alors Thomas, chez vous, à The Conversation, c'est un article qui s'intitule « Comment débusquer un mensonge en ligne ?» Alors c'est large, hein, des profils de rencontres au Brexit.
Oui, parce que ce sont deux chercheurs britanniques qui ont été, comme nous tous, marqués par ce qu'ils appellent les bobards, hein, du Brexit.
Ah oui, il y a eu des choses à raconter quand même. Hein, ouais.
Sur on rase gratis demain, le système de santé va gagner des sous, se porter beaucoup mieux, etc. dès qu'on sortira de l'Union européenne. Et puis dès le lendemain, on tourne kazakh. Et donc, ils ont décidé de se pencher sur ce qu'ils appellent donc les mensonges numériques. Voilà, donc en fait, ils donnent toute une série de techniques pour débusquer donc ces mensonges numériques, et ils proposent même peut-être une application qui demain aidera les consommateurs à éviter de se faire gruger.
On va aller regarder tout ça. Pour Slate, Mélissa Bounois, l'interrogation est tout autre. Les enfants contrôlent-ils le monde? Un extrait de la vidéo qui accompagne cet article. C'est Titu, Nadia et les sales gosses, série mensuelle.
Alors moi, en fait, je suis un peu fière et en même temps, je suis un peu honteuse. J'ai pas complètement décidé comment je devais vivre les choses. Mais voilà, j'ai une confession à faire. Je n'ai pas organisé de fête d'anniversaire pour ma fille. Et là, normalement, tout toutes les mamans blogueuses me jettent des piñatas au visage.
Dans cette série, donc sur Slate, comme dans l'article qui l'accompagne, vous faites surtout le point en fait sur les pressions contradictoires, hein, de la société sur les parents, Mélissa.
Oui, parce que les parents veulent être de plus en plus géniaux avec leurs enfants et donc être vraiment sympas avec eux. Et en même temps, ils peuvent pas tout leur donner. Donc, vous savez, il y a ce truc de si vous êtes un super parent, vous allez laisser faire plein de choses à votre enfant. Il va être créatif, il va être bien. Puis en même temps, quand vous serez avec lui dans un train, par exemple, là, c'est la période de vacances, bah, faudra surtout pas qu'il fasse de bruit parce que s'il fait trop de bruit, là, les gens vont vous regarder et vont vous juger. Et donc, en fait, dans ce podcast de Titu, Nadia et les sales gosses, elles ont invité une auteure qui a écrit un livre sur à destination justement de ses parents qui ne lisent absolument pas de livres sur l'éducation, mais qui en même temps essayent d'être un peu des bons parents. Mais en même temps, les parents aujourd'hui sont des parents d'une génération qui, elle aussi, a grandi avec plein de liberté, donc veut continuer à se développer, veut ne pas pouvoir organiser des fêtes d'anniversaire, veut ne pas se contraindre à être la mère parfaite au foyer parce qu'elle travaille de toute façon et qu'elle n'a pas forcément le temps de tout céder à sa fille.
Merci Mélissa, merci Thomas. Slate et The Conversation, les deux sites d'information sur lesquels il faut aller cliquer pour retrouver les articles dont nous venons de parler.